7h16 minutes, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on a vu l'entrée en bourse de Lyft, qui est dans la même famille, si on veut, que Uber, même type d'activité. Et là, c'est entré à un prix très élevé. Le marché semblait très, très, disons, enthousiaste. Puis finalement, oups, ça s'est dégonflé.
Oui, comme une balloune à l'hélium après une fête d'enfant. Non, je blague, mais tu sais, le prix d'entrée était à 72$, ça a monté 87, 88 et on est descendu maintenant à 66, 67$. Pourquoi? Puis ça, c'est juste depuis vendredi. Mais Lyft, c'est pas une entreprise qui fait de l'argent. Lyft, c'est une promesse. Et comme toutes les entrées en bourse, on a au début des spéculateurs. Des gens qui sont là pour se dire « Ah, on a une historique la première journée, qu'on peut faire de l'argent rapidement. » Parce que des gens qui s'excitent un peu, qui achètent le futur. Mais Lyft, c'est une promesse de révolution sociale. C'est une promesse que les gens délaissent plus leur voiture, utilisent plus le taxi, entre guillemets, qui est Uber et Lyft. Qu'on ait une croissance de ce modèle-là et qu'on génère éventuellement des profits. Donc, c'est acheter une promesse par rapport à d'autres entreprises comme des banques ou vous achetez des flux monétaires réguliers. On a vu ça avec Facebook aussi, hein. Au début, tu sais, l'action était rentrée à 40$. Dans les mois suivants, on avait baissé à 18, là, de moitié. Et par la suite, en 2013 et 2018, avant les scandales, on avait une belle croissance soutenue. Donc, dans le moment, c'était Pinterest, Uber, puis tu regardes ça. Tu dis, ah, OK, on va entrer en bourse. Mais il faut garder une espèce de positivisme, faut donner du jus à l'investisseur. Parce qu'il s'est rien passé de majeur chez Lyft entre vendredi puis aujourd'hui. Tout ce qui a changé, c'est la confiance que le modèle allait perdurer. Et même dans le document, évidemment, de mise en marché, celui d'IPO, il est écrit toujours les risques, tu sais, dans le prospectus. Et là, un des risques, il dit, chez Lyft, c'est-à-dire, on n'a jamais fait de profit, puis ça se peut qu'on en fasse jamais. Tu sais, il y a ce risque-là qui existe. Et quand tu regardes les résultats des trois dernières années, ben, même si tes revenus sont passés de 343 millions à 2,2 milliards, tu te retrouves quand même avec des pertes qui arrêtent pas d'augmenter. On est rendu à près d'un milliard de pertes. Donc, va falloir à un moment donné qu'on génère des profits. Donc, soit plus de transport et amortissement des coûts fixes et des coûts pour être capable de générer du profit et donner confiance à l'investisseur.
Mais Uber, c'est la même chose. Il dégage pas de profit.
Uber, c'est le même principe. Mais évidemment, tu as tout le temps des investisseurs privés qui donnent une évaluation d'entreprise. C'est-à-dire que eux investissent, disons, un milliard pour une portion des actions puis te disent, ben, nous, on a évalué tel pourcentage à telle valeur dernièrement parce que nos analyses disent qu'avec les expectatives de croissance, on va y arriver éventuellement. Mais c'est acheter beaucoup d'optimisme.
OK. Alors, vous pensez avoir des enfants. Là, tu veux nous dire l'impact sur les revenus.
Oui, mais surtout le revenu des femmes. Parce que François Delorme, professeur à l'Université de Sherbrooke, m'a relancé il y a une couple de mois, puis m'a relancé hier encore. Puis il me dit, regarde l'étude, là. Et je trouve ça intéressant, celle-là. La Banque royale du Canada a sorti une étude dans sa division économique qui est la suivante. Si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, jusque-là, ça se peut, entre 25 et 38 ans, sur les 5 premières années de votre carrière qui sont liées à la naissance des enfants, vous allez payer le prix. Et le constat est intéressant. Et on démontre, dans le fond, que la croissance des revenus par rapport aux gars est pas la même, mais varie en fonction de quand tu as tes enfants. Par exemple, si tu as tes enfants à un jeune âge, entre 25 puis 29 ans, il se peut que l'impact sur tes revenus soit beaucoup plus grand à long terme que si tu as eu tes enfants, par exemple, entre 30 et 34 ans. Dans les 5 premières années, l'impact est plus grand. Mais qui plus est, on voit que l'écart avec le conjoint, qui s'est creusé au moment, évidemment, qu'on a eu des enfants parce qu'on s'est des fois retiré du marché du travail, est plus grand en perte de revenus sur les 5 premières années et par la suite, quand tu as tes enfants de bonne heure. Donc, ce que ça dit, c'est que si vous avez bâti une carrière entre 20 et 29 ans, il y a des meilleures chances que votre salaire soit appréciable ou continue d'évoluer dans une bonne direction si vous avez eu des enfants plus tard. Si vous avez des enfants de bonne heure, il se peut que ça vous coûte cher à très long terme. Bon, évidemment, ça, c'est les statistiques globales, parce qu'il y a des bémols à l'amener. Par exemple, si t'es une infirmière ou un prof de primaire, t'as une convention collective, t'as des augmentations de salaire, et il y a certaines conventions collectives qui te pénalisent pas, qui te font même cumuler des vacances pendant que t'es en congé de maternité. Ces emplois-là vont être moins affectés. Surtout que la croissance de salaire après, elle est un peu linéaire, comme prof de cégep ou prof de secondaire. Mais si t'es travailleur autonome, si t'es médecin, ouais, si tu t'es directeur d'un département, ben là, évidemment, tout ce qui est lié à une promotion en croissance de salaire, tu vas payer le prix. Donc, évidemment, statistiquement, les filles sont désavantagées, mais après ça, il y a tout le reste.
Ouais,
oui, vas-y.
Non, je t'écoute parce que je me dis en même temps, je pense que c'est aussi vrai. Écoute, puis là, toi, tu me présentes des chiffres, là, mais quelqu'un qui a un enfant à 28, 29, 30 ans, puis ça se peut aussi qu'elle soit assez pénalisée parce que t'es rendu à un certain niveau dans ta carrière. C'est peut-être là qu'il y a des promotions qui s'offrent, en tout cas des possibilités hautes d'emploi que tu vas laisser passer ou que tu vas malheureusement échapper, non?
Évidemment, c'est un recensement canadien et c'est, faut faire attention là, c'est l'écart de croissance de salaire avec le conjoint en pourcentage de ton salaire avant d'avoir des enfants. Mm-hmm. Donc, évidemment, ça démontre pas ici que le conjoint n'a peut-être pas d'ambition puis que finalement, le rattrapage en pourcentage s'est fait simplement parce que le conjoint avait pas d'ambition. Et là, on peut y arriver ici. Il y a toute une question
de personnel. La meilleure affaire, c'est pas avoir d'enfants pantoute.
Ben oui, ça c'est sûr, Paul, mais tu sais, personnellement, on prend des décisions aussi. Puis on a de l'ambition, on en a moins. Il y a des gens qui t'auraient beau leur mettre toutes les conditions gagnantes, ils en veulent pas une croissance de responsabilité. Donc, il y a ça aussi dans tout le calcul. Mais il y a une conclusion à tout ça.
Oui.
C'est que peu importe à quel âge tu as ton enfant, ça démontre une chose. Si vous êtes un couple, puis vous décidez qu'il y en a un qui quitte le marché du travail pendant plusieurs années, c'est pas seulement les 4-5 années que vous devez faire le calcul. C'est toute la perte de revenus de la personne qui met sa carrière de côté qu'il faut évaluer. Et c'est pénalisant. Et c'est un des plus gros risques financiers à long terme. Donc, c'est un pensez-y bien dans les politiques financières et de salariales.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut. C'est quoi là? Il est 7h22.